Bonjour à toutes et à tous. Félicitations aux fauves de Bazubongi du football qui ont tenu le drapeau de la République centrafricaine à l'international malgré leur défaite des buts à 1 face au Palancas Negras de l'Angola, match qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le sport unit le peuple et c'est vrai, nous l'avons expérimenté ces derniers jours en République centrafricaine, hommes, femmes, politiques et agriculteurs, bref, tout le monde sans exclusive, se sont mobilisés pour encourager les fauves, même s'ils ne sont pas qualifiés. Mais du courage à tous les fauves, à tous les supporters, c'est ainsi la loi du football. Parlons maintenant de la politique, puisque cette émission permet de traiter de questions politiques de la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux messages de haine qui pullulent ces derniers temps dans le pays et surtout sur les réseaux sociaux. Cette pratique inquiète de plus en plus les leaders religieux. Ils ne cessent d'interpeller à la retenue. Faut-il le rappeler ? Ces messages de haine et de division interviennent après la convocation du référendum constitutionnel du 30 juillet prochain par le locataire du palais de la Renaissance. L'opposition démocratique voit derrière cette affaire la volonté du gouvernement centrafricain de maintenir le président Faustin Alkantouadira au pouvoir, ou du moins de lui favoriser un troisième mandat. Question, quel est l'avenir de la République centrafricaine face à la montée des messages de haine relatifs à la convocation du référendum constitutionnel du 30 juillet prochain? Et pour en parler, je reçois Madame Nathalie Constance Gounebana, présidente des femmes de l'URCA et aussi présidente de la plateforme des femmes de l'opposition démocratique, enseignante chercheuse à la faculté des lettres à l'université de Bangui et ancienne ministre des Eaux et Forêts à l'époque du président Faustin Ange Félix Patassé, j'allais dire. Madame, bonjour.
Bonjour Armando.
Bonjour aussi à vous, monsieur William Diapo.
Oui, bonjour.
Oui, vous êtes docteur en droit et conseiller du président de la République, aussi ancien chercheur à l'université de Bangui. Armando Nguendi, c'est moi. Le débat démocratique, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, ouvrons le bal avec vous, madame. Pour le gouvernement, l'opposition démocratique excelle dans la désinformation contre le processus du changement de la Constitution. Et selon le constat, les messages de haine refont surface juste après la volonté du pouvoir de vouloir changer la loi fondamentale. Qu'en dites-vous, madame Gounebana?
Merci Amando, mais avant de revenir à votre question, je voudrais faire un petit coucou à nos fauves qui sont actuellement à Douala et qui ont cette possibilité de se qualifier pour la première fois à la CAN. Et une mention très spéciale à Geoffrey, qui est mon fils, qui est né en Seine-et-Marne, où on vivait auparavant. Comme vous avez si bien dit, je suis ici pour porter la voix de milliers de femmes qui constituent la majorité silencieuse. Je suis là pour porter la voix de nombreuses personnes qui sont soit dans l'opposition, soit dans la société civile, ou soit même au pouvoir. Parce que les personnes aujourd'hui qui disent non à cette démarche ne sont pas uniquement des personnes qu'on retrouve dans l'opposition. Il y a des personnes qui sont au sein du pouvoir et qui ne sont pas d'accord avec ce projet de révision ou d'écriture de la nouvelle constitution et qui, de par leur position, ont des devoirs de réserve et ne peuvent pas s'exprimer. Donc, moi, je porte également la voix de ces personnes-là parce que on a des opinions différentes, on a des idées différentes et ça ne fait pas de nous
ennemis.
Des ennemis ou des adversaires farouches. On est tous des Centrafricains. On est dans une nation plurielle où foisonnent des idées, où foisonnent des opinions et on est en démocratie et on a le droit d'avoir des opinions contraires. Donc c'est un débat aujourd'hui, c'est un débat politique et on est là pour argumenter, on est là pour éclairer le peuple centrafricain, on est là pour justifier notre position à nous, pourquoi on dit que le pays aujourd'hui est dans une mauvaise trajectoire.
Avant de rentrer dans ce détail, comme vous l'avez dit, vous avez suivi la position du gouvernement qui accuse l'opposition démocratique d'être à l'origine de ces messages de haine, parce que pour le pouvoir, l'opposition est contre ce projet du changement de la Constitution, et pour cette raison, l'opposition excelle dans des messages de haine pour dénigrer d'abord le processus, mais aussi contre certaines personnalités.
Pas du tout, je pense que c'est un raccourci vraiment de dire des choses comme ça, parce que s'il faut repartir au début de ce problème, s'il faut refaire la jeunesse, je pense que les messages de haine, c'est au niveau du pouvoir même que les messages de haine, les messages de violence ont commencé à être profusés. Quand vous prenez le cas de la plateforme Galaxy, qui a violemment, il s'en est pris violemment aux personnalités de l'opposition démocratique avec des menaces ouvertes pour les menacer de mort, pour les menacer avec, je ne sais pas ce qu'il avait utilisé comme terme, des balles de quoi là pour leur casser les pieds. Quand vous prenez tout simplement statistiquement parlant toutes les déclarations de la plateforme Galaxy qui s'en prend à l'opposition et qui s'en prend aux partenaires techniques et financiers, on retrouve la source même, la genèse même tous ces messages de haine, le fondement même, c'est parti de là. Donc la haine appelle la haine, la violence appelle la violence, et tout ce qui a été fait, c'est comme si cette plateforme-là a agi par procuration, et je pense qu'à un moment donné, a même mis la ministre des Affaires étrangères en difficulté, parce qu'il y a des propos qui, diplomatiquement, ne sont pas corrects. Diplomatiquement. Et en même temps, qui peut aller crier, parce qu'il crie en son nom, il crie au nom de sa plateforme, mais en même temps, le ministre des Affaires étrangères devait être là pour rattraper la situation, ce qui n'a pas été fait et ce qui a été vu aux yeux du monde comme si Galaxy opérait par procuration.
Et donc, comme si, selon vous, il n'y a rien laissé aller, hein, au sommet même de l'État.
Disons que tout ça s'est entretenu. Moi, je vais vous donner juste l'exemple, les messages de haine ici dans un pays ami au niveau du Cameroun. Il y a eu presque ce phénomène-là, mais qu'est-ce que le président Paul Biya, il a fait? Il a tapé du poing sur la table, il a interpellé les ministres, il a demandé à ce qu'il y ait des sanctions. Pourquoi? Parce que ces messages de haine, je vais vous dire encore autre chose. Le représentant de la Banque mondiale, le représentant qui est parti, enfin de mission qui est parti, mais il a attiré l'attention du gouvernement sur ces messages de haine, sur les conséquences de ces messages de haine, parce que les conséquences, c'est quoi? C'est que ça va écorcher l'image du Centrafrique et par conséquent, les partenaires qui sont disposés à appuyer le gouvernement, quand ils sont attaqués comme ça, donc c'est contre-productif. En fait, tous ces messages-là sont contre-productifs, donc c'est un conseil même. C'est pas que c'est con, parce que tout ce que l'opposition dit, même quand c'est bien, on met une couleur noire. Mais là, c'est le représentant résident de la Banque mondiale qui est parti, et avant de partir, il a donné ses conseils que le gouvernement doit soigner ses relations. Mais comment on peut soigner ses relations en même temps avec une plateforme comme ça qui tire la balle dans les pieds?
Voilà, on va écouter M. William Diapou. Hein. Gouvernement et opposition se lancent des fléchettes. Et d'après le BRDC, le pouvoir sous la houlette du président de la République paye des jeunes pour insulter, intimider et voire lancer des messages de haine et de division contre ceux qui s'opposent à ce projet de la nouvelle constitution. M. Diapou, vous êtes le conseiller du président de la République. Quelles sont vos réactions par rapport à ces propos?
Merci. Alors tout d'abord, à la suite de Madame
Gounebana,
je tiens à saluer les fauves depuis Douala. Et je tiens également à exprimer toute ma fierté d'être aujourd'hui aux côtés de Madame Gounebana, avec qui nous avons travaillé sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe durant l'atelier national de validation. Et donc c'est un honneur aussi que de partager ce moment avec elle. Alors d'entrée de jeu, je tiens d'abord à faire une petite précision. Vous avez dit tantôt à l'initiative du gouvernement, certes, que la réforme constitutionnelle est en cours, mais c'est surtout à l'appel du peuple centrafricain. Nous l'avons observé et remarqué durant ces derniers mois, comment la société civile...
À l'appel du peuple ou à l'appel
du
de...
peuple centrafricain?
D'accord.
Tout à fait. Bien sûr, dans le peuple centrafricain, vous allez trouver autant des gens issus de la majorité que de l'opposition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a eu une manifestation assez solide de soutien à cette réforme constitutionnelle, que ce soit au niveau national et au niveau de la diaspora. Alors, vous, Madame Gounibana, tout à l'heure parlait de propos portés par certaines organisations hein, du pouvoir. Je tiens d'abord encore à préciser qu'il ne s'agit pas d'organisations du pouvoir. Il s'agit Galaxy, dont elle vient de citer, est une organisation, il me semble, de la société civile qui a ses règles et qui évolue en fonction de...
Et qui soutient les actions du gouvernement.
Qui soutient les actions du gouvernement, pourquoi pas, mais qui soutient aussi d'autres combats sociaux. J'ai vu plusieurs communiqués faits par la Galaxy, mais il ne s'agit pas toujours que de thématiques politiques, il y a également des thématiques sociales qui ont été abordées. C'est-à-dire que c'est une organisation qui fonctionne. Mais moi aussi, j'aimerais dire, mais quand on prend, vous venez de citer le BRDC, je ne vais pas m'attarder sur le BRDC, mais je vais m'attarder beaucoup plus sur le G16, le groupe d'action d'ajusté civil en défense de la Constitution de 2016, qui, à travers également nombre de ses leaders, je vais parler notamment de Ben Wilson Gassan, je ne vais pas beaucoup parler de M. Karl Blagué, qui est un peu plus discret, mais qui également tiennent un discours assez virulent suite à la convocation du corps électoral. Je veux aussi citer le CRT de M. Akandji Kambé, qui, lui, va plus loin. Pire, il appelle à la rébellion, il appelle à la résistance, alors que la constitution qu'il ose défendre aujourd'hui, mais c'est celle-là qu'il
appelle à la résistance.
Il appelle à la résistance.
Il appelle à la résistance.
Mais non, aujourd'hui, le discours a changé. Le temps de M. Akandji Kambé a changé. Il appelle clairement les gens à utiliser tous les moyens possibles pour évincer le chef de l'État. C'est-à-dire que lui-même, il se pose en défenseur d'une constitution que lui-même, il viole. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, quel est le paradoxe? C'est-à-dire que des deux côtés, nous sommes dans une situation, autant du pouvoir, il faut le reconnaître, autant de l'opposition, hein, où les gens se tirent à couteau déchiré. Mais le fondement de tout cela, c'est quoi? On se bat pour quoi? On se bat pour la convocation d'un corps, enfin, du corps électoral pour un référendum qui est aujourd'hui totalement légal, qui est totalement légal, qui est en
selon
conformité.
Vous
oui, pas selon moi. Selon l'article, les articles
côté,
41 et 90 de la Constitution, selon la loi.
Est contre ce que vous dites.
Selon la loi fixant les procédures référendaires, la convocation du corps électoral pour référendum constitutionnel est totalement légale. Au regard de la loi, de nos lois nationales, c'est légal. Alors pourquoi on va continuer à tenir un débat autour de l'opportunité ou non de la convocation du corps électoral, puisque c'est déjà légal? Peut-être que nous pourrons tenir bientôt, durant les campagnes référendaires, le débat sur les éléments mêmes qui seront dans la prochaine constitution.
Ces messages de haine, vous le savez, ça a existé. Aujourd'hui, cela refait surface par rapport à la convocation du référendum constitutionnel du 30 juillet prochain. C'est ça qui a provoqué tout cela, parce que si les gens du pouvoir estiment que ceux qui sont contre la République, et ceux qui pensent que ceux qui tiennent coûte que coûte à ce projet sont aussi contre la République, vous voyez,
j'aimerais rebondir en même temps. Vous allez essayer de me citer une seule personne du pouvoir qui, depuis la convocation du référendum constitutionnel, a appelé à la violence, a appelé à la prise des armes. Nous avons récemment entendu, tous les Centrafricains ont entendu M. Alexandre Ferdinand Guendé, qui, dont le RPR, membre de BRDC, a appelé clairement à la violence, a revendiqué des actions subversives en cours. Vous avez également des gens comme M. Ngiré Kata, des personnalités de l'opposition qui aujourd'hui tiennent des discours, mais des discours, je dirais, quasiment criminels. Alors, dites-moi s'il y a également la même chose du côté de la majorité et...
Vous l'avez reconnu tout à l'heure, mais apparemment vous avez oublié ce que vous avez dit.
Oui.
Vous avez dit que de deux côtés, il y a ces messages de haine.
Des deux côtés, s'il y a des tensions.
Il y a des tensions,
c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie où il y a des voix qui s'opposent sur les sujets sociaux. C'est le rôle aussi de l'opposition que de dire non lorsque la majorité propose quelque chose. Mais est-ce que c'est le rôle de l'opposition d'appeler à la violence, d'appeler au coup d'État, d'appeler, d'aller jusqu'à menacer. Hein. Quand vous entendez Guindé, il demande, je ne sais pas par quelle voie et moyens, il demande aux premières dames de les laisser lui-même gérer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte à quel point le débat devient ridicule et traîné dans la rue?
Et c'est
cette violence-là qu'il faut dénoncer.
Et c'est cela qui nous a poussé, c'est la raison principale d'ailleurs de notre débat d'aujourd'hui pour étayer la lanterne de la population, parce que nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes parmi la population et la peur gagne des esprits en ce moment par rapport à tous ces messages. Madame Gounibana, sur la question d'abord de la convocation du référendum, selon Monsieur William Diapou, cela est légal et respecte la loi fondamentale.
Moi, je dirais que quelle loi fondamentale est respectée aujourd'hui en Centrafrique? Aucune loi n'est respectée. Ce projet, c'est pas une surprise, la convocation de ce scrutin pour le 30 juillet. C'est un sujet qui est sur la table depuis plus d'une année. Et par rapport à ça, on a commencé par mettre en place un système pour liquider, hein, pas physiquement, mais renvoyer à la retraite la présidente de la Cour constitutionnelle qui avait estimé à un moment donné que il y avait des textes qui étaient pas normal. Et puis, comme elle s'est opposée au projet de réécriture d'une nouvelle constitution, elle a été écartée sous prétexte qu'elle doit partir à la retraite et pour être remplacée par un autre juge, Monsieur Waboué Pierre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, toutes les institutions de la République sont à la solde du pouvoir. Il n'y a pas une séparation des pouvoirs aujourd'hui. Et ça, c'est tellement clair comme l'eau de roche qu'on n'a même pas besoin de nier quoi que ce soit parce que le fait de nier, moi j'ai dit la dernière fois sur votre plateau Armando que je déteste être dans le déni. Moi, je suis une femme, j'ai ma personnalité propre et moi, quand ça va, je dis oui, ça va. Quand ça ne va pas, je dis non. Alors, être dans le déni alors que les choses sont tellement flagrantes, les choses sont tellement grotesques, on nous ramène. C'est-à-dire que c'est au faciès. C'est-à-dire que c'est quand ça arrange pour dire que oui, il faut respecter la loi. Alors que de la même manière, on ne respecte pas, mais de la même manière, on dit il faut respecter. Mais on voit tout simplement que ce texte-là, ce projet de... On avait commencé avec le Bitcoin. Le Bitcoin pour, toucher aux ressources naturelles, pour vendre des ressources naturelles. Après, il y a eu résistance de la Cour constitutionnelle. Maintenant, il y a eu contournement maintenant pour passer par le Conseil économique, pour valider maintenant ce projet sur la tokenisation des ressources naturelles. Mais c'est là, c'est plus grave. C'est grave qu'on veuille changer la Constitution pour des choses qui concernent peut-être certaines dispositions qui concernent le fonctionnement ou pour améliorer les choses, on veut bien. On a tous été à l'école dans ce pays. Mais moi, je suis des fois frustrée devant certaines réactions. C'est comme si, devant certaines réactions du pouvoir, parce que c'est comme si les autres qui sont en face là n'ont jamais été à l'école.
Aujourd'hui, si le pouvoir, par exemple, a lancé ce référendum pour changer la constitution, et si l'opposition estimait que la situation n'aurait pas respecté la loi en tant que telle, mais pourquoi il y a des messages de haine, par exemple, provenant de certains leaders de l'opposition? Comme Nguende et bien d'autres.
Je veux vous dire, Armando, comme vous m'avez coupé, je n'avais pas fini, parce qu'il faudrait que j'aille au fond de mes idées. Des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas lisibles. Aujourd'hui, on n'a aucune lisibilité sur l'avenir de la RCA. On ne connaît pas l'agenda caché, le projet d'agenda caché de 2025. Quelle est l'offre aujourd'hui, l'offre politique du président de la République? Quelle est cette offre politique? Qu'on nous le dise, on est des intellectuels. Même quand les gens ne sont pas intellectuels, mais il y a la sagesse. Les gens sont en mesure de comprendre les choses. Si on leur explique, même en sango, en français facile, les gens vont comprendre. On va aller modifier la constitution. Pourquoi? Mais qu'on nous explique. Aujourd'hui, le scrutin a été convoqué pour le 30 juillet. La campagne référendaire doit commencer le 15. Mais les dispositions qui doivent faire l'objet de révision, tout ça, ne sont pas à ce jour disponibles. Mais on est dans le noir absolu. C'est comme si on nous prend pour des aveugles. Mais qu'on mette les choses sur la table et qu'on regarde et qu'on dise oui, là on est d'accord, là on n'est pas d'accord. Mais on veut nous entraîner à l'aveugle, suivez-moi. Vous n'avez rien à dire. Le projet de la nouvelle constitution, ça viendra après. Mais dites d'abord oui, et puis on vous expliquera après. Mais moi, ce que j'ai aussi vu, c'est que le pouvoir soutient.
Quelques secondes.
Le pouvoir soutient que la nouvelle constitution comporte des dispositions qui pourraient compromettre le développement du pays. quelles sont ces dispositions qui pourraient compromettre le développement du pays? Est-ce que, qu'on nous dise aujourd'hui, est-ce que la constitution de 2016, c'est ça qui empêche de réparer les routes? C'est ça qui empêche de remettre à niveau le plateau technique dans les hôpitaux? C'est ça qui empêche de réhabiliter l'aéroport Bangui Poko? C'est ça qui empêche de lutter efficacement contre la corruption? Est-ce que c'est ça qui empêche toutes les choses aujourd'hui qu'on relève au niveau de la mauvaise gouvernance? Mais il faut commencer d'abord par là. Mais on a l'impression qu'on nous attache la corde au cou, on veut nous attacher la corde au cou, c'est tout ça, ça se fait au forceps, c'est à marche forcée. Bon, faites ci, faites ça, vous, quand vous ne faites pas, eh bien, ça y est, on déverse sur vous des messages de haine, parce que bon, ben, nous, on n'est pas des Centrafricains. Nous qui disons non, on n'est pas des Centrafricains. Bon, ben voilà, c'est pas des Centrafricains. Voilà, parce qu'ils disent non à la révision
Madame,
de la Constitution.
Madame, vous avez 6 minutes 30, 13 secondes de chrono sur M. Ndiapou. M. Ndiapou, vous prenez la parole. Et si le gouvernement était convaincu que son projet aurait l'adhésion de la majorité, pourquoi jusqu'à présent le libellé de la Constitution n'est pas encore dévoilé?
Très bien. Mais j'aurais voulu que Madame puisse répondre à votre question qui était très pertinente et qui était survolée. Vous lui avez demandé si elle condamnait les propos de M. Nguindé. Elle est de l'opposition, elle est de l'opposition. Elle s'est présentée en tant que femme, en tant que défendrice des femmes. Et quand un membre de l'opposition comme elle s'en prend ou alors porte des propos à peu près polémiques autour des premières dames, est-ce que cela n'est-il pas condamnable? Est-ce que cela ne doit-il pas être répréhensible?
Mais il a pas dit de mauvaises choses sur les premières dames, à ce que je sache.
Donc vous défendez alors
ses propos? Non, je ne défends pas l'opposition démocratique s'est déjà prononcée sur l'appel du président Guindé.
Très bien.
Vous avez très bien suivi. Donc je vois pas pourquoi vous me reposez la question.
Merci bien. Voilà. Mais je tiens aussi à apporter un autre une petite nuance. Nombre sont encore ces gens-là qui continuent à dire que Madame Darlan a été évincée de la Cour constitutionnelle. Je pense que nous avons tous suivi au sein de notre pays les opérations. D'accord, les opérations menées par le ministère en charge de la fonction publique. Ces opérations ont inéluctablement conduit à l'aboutissement de mise à la retraite. Ces mises à la retraite sont des mesures purement administratives. Purement administratives. Elles n'ont pas frappé que Mme Darlan. Elle n'est pas la seule enseignante du corps académique de l'Université de Bangui qui a été frappée. D'autres enseignants, y compris le président de l'Assemblée nationale, a également été visé par ces dispositions. Donc il faut vraiment recadrer cette question que tout le temps on ramène sur le fait que Mme Darlan aurait été évincée. Alors, et je suis encore étonné qu'aujourd'hui, cette même opposition qui, de temps en temps, acclame la Cour constitutionnelle, Mme l'a dit tantôt, la Cour constitutionnelle a été acclamée lorsque le projet, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs décrets présidentiels. Mais il fallait voir l'opposition qui était aux anges. Mais aujourd'hui, tout est ramené à des individus. On ne parle plus de Cour constitutionnelle. On parle de M. Waboué. On parle de Mme Darlan. Alors, lorsque la Cour constitutionnelle va dans le sens de l'opposition, cette Cour constitutionnelle, elle est acclamée. Mais lorsqu'elle ne va pas dans le sens de l'opposition, elle est à la botte du régime au pouvoir. C'est donc ce genre de leader-là dont nous avons besoin, qui ramène tout aux individus, alors que ici nous sommes en train de parler d'institutions. C'est une question que je poserai également à l'opposition. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Effectivement, il se peut que l'opposition ne soit pas d'accord avec le gouvernement. Et d'ailleurs, c'est son rôle, l'opposition. Qu'est-ce qui les a empêchés de déposer un recours? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un seul membre de l'opposition a déposé un recours au niveau de la Cour constitutionnelle contre le décret portant...
Mais le BRDC dit ne plus reconnaître la compétence ou la légitimité de la Cour constitutionnelle ces derniers temps.
Donc le BRDC n'est plus de l'opposition? Le BRDC n'est plus dans la République? Dites-moi, vous êtes en train de me dire peut-être que le BRDC et l'opposition...
Mais ça, c'est
...a quitté la République. Alors, il existe des voies de recours légaux pour pouvoir se prononcer. Qu'est-ce qui empêche le BRDC? À moins que le BRDC aussi, dans quelques mois, entrera dans une ligne dure comme le CRT de M. Akandji Kambé, ou alors j'ose entendre encore d'autres groupes, COFAT, etc. par-ci. Non, il existe, nous sommes dans une république. Il existe des moyens légaux pour pouvoir s'exprimer et contester. Le BRDC aurait dû d'abord déposer un recours et peut-être qu'il aurait abouti. Nous ne pouvons plus le savoir puisque je pense que les délais de recours... sont déjà fort clos. Mais ça aurait été déjà une bonne intention une bonne manière de déposer un recours contre ce décret-là en invoquant ces arguments. D'ailleurs, Maître Mboulingou est toujours l'un des premiers à se jeter sur ce genre de situation. Nous sommes très étonnés qu'aujourd'hui il est...
Mais ça, c'est leur position, peut-être. Revenez sur ma question tout à l'heure sur pourquoi le gouvernement n'arrive pas jusqu'à présent à dévoiler, à publier le contenu de cette nouvelle constitution.
Alors, est-ce que le gouvernement ne parvient pas à publier? Je ne pense pas. Dans son discours à la Nation du 30 mai 2023, le président de la République a d'abord donné certaines orientations. Il a dit que dans les prochains jours, les principales réformes seront proposées. Les principales réformes proposées seront soumises au peuple pour leurs différents avis. Mais il a quand même donné déjà des grandes lignes directives. Il a parlé de cette constitution va permettre notamment de promouvoir des valeurs, d'améliorer le fonctionnement des institutions, notamment les questions de transparence, de redevabilité, de redynamiser notre jeune démocratie. Il a déjà donné des orientations. Et ce texte sera soumis bientôt à l'attention du peuple. D'ailleurs, hier, le directeur national de campagne référendaire de la majorité, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Évariste Gamana, a au cours d'une conférence de presse réaffirmé que le document de la nouvelle constitution, le projet, sera disponible sous peu, en prélude au campagne référendaire. Donc,
Madame a évoqué la question de ce que le président, une fois que le président veut convoquer la campagne ou bien le référendum, il doit coûte que coûte publier ce document, c'est selon la loi. C'est que madame.
Quel est cet article de la loi qui le dit?
La loi
référendaire. Je pense que madame parle de l'article 6 de la loi fixant les procédures référendaires, il me semble. Si c'est cet article-là, cet article dit que le document doit être annexé, le projet doit être annexé
à la convocation
du règlement. Et qui dit
c'est
que ça
n'a pas été fait?
Non, qui vous dit que ça n'a pas été fait? Est-ce que l'annexion équivaut à la diffusion? Il y a une nuance. Aujourd'hui, nombre de gens continuent à penser que le fait de l'annexer, ça veut dire qu'il doit être diffusé. Mais non, est-ce qu'il dit que ça n'a pas été annexé?
Mis à disposition.
Ah non, la loi ne l'a pas dit. Nous allons citer la loi, d'accord?
Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est que au niveau du pouvoir, le pouvoir a déjà démarré la campagne, avant la campagne même.
Ah bon?
C'est-à-dire que allez sur le terrain. Peut-être vous n'avez pas les informations de terrain. Aujourd'hui, la campagne a démarré, mais sur rien du tout. Sur tout simplement que il faut voter le 8 parce que avec le 8 le pays va changer parce qu'avec cette ancienne constitution de 2016 ça empêche le développement du pays. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir en quoi cette constitution de 2016 empêche de faire plein de choses qui n'ont pas été faites depuis 7 ans. Pourquoi aujourd'hui on accuse cette constitution-là, on demande aujourd'hui des résultats par rapport à la gouvernance de 7 ans. On nous dit c'est la faute à cette constitution. En fait, c'est ça que ça veut dire. Quand on analyse bien, en fait, c'est sur ça qu'on arrive. On a été empêché de développer le pays pendant 7 ans, tout simplement parce que la constitution ne permet pas. Il y a
je
des
pense
dispositions.
Que c'est votre perception.
C'est ce qui a été dit. C'est ce que j'ai relevé de discours que il faudrait changer cette constitution parce qu'il y a des dispositions qui pourraient compromettre le développement du pays en bloc.
Tout à fait.
C'est pour
ça
qu'on demande quelles sont ces dispositions qui ont empêché pendant 7 ans et pourquoi avoir attendu 7 ans pour réviser la constitution. Si dès les premières années du premier mandat, si on s'est rendu tout de suite compte, si on est venu avec la volonté réelle de développer un pays, avec un projet de société qu'on veut dérouler et qu'on remarque tout de suite qu'il y a des dispositions qui empêchent de dérouler ce programme, ce projet de société, tout de suite, on soumet au peuple, on dit non, nous on vient d'arriver, mais voilà, on veut faire ci, on veut faire ça, mais il y a des verrous, il faudrait aller à la révision. Mais pourquoi avoir attendu 7 ans? Donc ça veut dire que c'est 7 ans dans le vide, c'est 7 ans de souffrance des centrafricains
Vous avez posé beaucoup de questions, madame,
Il faut d'abord aller du fait que ce n'était pas une volonté qui émanait nécessairement de l'exécutif. On tient encore à le rappeler. Ce projet de révision de la Constitution est d'abord, de ce que nous savons, est une demande qui émane de nombre de nos compatriotes.
Les partisans du pouvoir.
Pas seulement des partisans
l'initiative
du pouvoir.
L'initiative est venue.
Non, l'initiative
n'est pas venue du peuple.
L'initiative. Quand vous parlez de la population, c'est vrai.
L'initiative est venue du peuple, d'un député.
Oui,
d'un député. Voilà,
allez-y.
C'est pas venu du peuple.
Oui, allez-y, monsieur Ndiapo.
Merci beaucoup. Alors, madame veut nous amener à parler des limites de la Constitution de 2016. Je pense qu'il y a déjà eu un large débat sur ce qui ne marchait pas dans la Constitution de 2016. Quels étaient des blocages, des verrous, notamment en termes de souveraineté, notamment, on va pas reprendre tous les débats juridiques.
Et cela m'amène à vous poser cette question. Si on n'est pas du tout d'accord sur le plan politique, sur certains nombres de choses, est-ce que cela nous pousse à brûler le pays avec ces messages de haine, etc.? C'est ça le nœud de notre débat d'aujourd'hui. Les gens ne sont pas du tout d'accord avec cette initiative et c'est cela la démocratie. Mais pourquoi aujourd'hui ces messages de haine?
Mais justement, la démocratie, c'est aussi l'expression, mais l'expression qui doit être encadrée. Notre actuelle constitution à encadrer la liberté d'expression. Et elle, c'est quoi en fait la démocratie? C'est de permettre à deux parties de se prononcer librement et de prendre une décision. Et surtout dans le cas où on est, lorsqu'il s'agit de questions aussi fondamentales, notre constitution également a prévu par quels moyens, par quelles voies et moyens, par quelles dispositions nous pouvons arriver à nous entendre. Notamment la souveraineté nationale qui est reconnue à l'article 26 qui permet à ce que lorsque une question fondamentale touche le peuple, ben il est appelé à se prononcer. Aujourd'hui, nous avons l'opposition qui n'est pas d'accord. Nous avons la majorité qui est d'accord. Quoi de mieux que de soumettre au jugement du peuple, de se prononcer?
Oui,
comme
mais,
ça,
mais,
au moins, nous serons sûrs que
oui, mais pour il aura le dernier mot. Pour expliquer au peuple le droit de manifester, ça, l'opposition n'a plus le droit de manifester. Tout est toujours non. C'est-à-dire que aujourd'hui, on assiste à la mort de la démocratie à travers déjà les institutions et à travers le rétrécissement de l'espace démocratique. Les opposants ne peuvent plus s'exprimer par les moyens légaux.
Citez-moi un journaliste en prison.
Je ne parle pas de journaliste.
Madame parle de.
Je parle des opposants.
Les journalistes ne sont pas des opposants.
Je parle des opposants.
L'expression.
Je parle des opposants. Je parle des opposants. Dès que l'opposition demande à faire un meeting pour expliquer pourquoi le non, pourquoi eux, ils sont pour le non, eh bien, systématiquement, c'est un refus. Mais déjà, à travers ça, c'est un coup d'épée qu'on donne dans la démocratie. Donc, ça veut dire que la démocratie est asphyxiée. Déjà de un et de deux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le cœur nucléaire du pouvoir aujourd'hui, c'est déporté de l'exécutif à l'Assemblée nationale. Parce que, comme vous voyez bien, tout à l'heure, on a vu que l'initiative même de ce projet de réécriture de la nouvelle Constitution est l'émanation d'un député. C'est sur l'initiative d'un député. Tous les gens aujourd'hui au niveau de l'Assemblée qui soutiennent ça, ce sont des députés. Donc, ça veut dire que le cœur nucléaire du pouvoir s'est transposé aujourd'hui au niveau des députés qui ne jouent plus leur rôle. Parce que leur rôle, c'est quoi? Ces députés ne jouent plus leur rôle. En ce sens que ces députés qui devaient en principe porter la voix des populations de leur localité ne portent plus la voix des populations, ne portent la voix du pouvoir.
Mais peut-être donc, c'est leur représentant, hein, puisqu'ils ont été élus.
Pas du tout.
Qui les envoie pour
simplement. Mais comment les représentants peuvent être, comment on peut imaginer être dans une société où on est une nation plurielle, que tout le monde, que tous ceux qui ont élu les députés disent oui.
Va dans le même
que,
sens.
Que pour dire que.
C'est que ils ont vu le bien fondé.
C'est même pas ça, on est dans une science-fiction. Non, si vous me dites c'est que on n'est plus au niveau de la réalité. Parce que même dans une même famille, il y a des gens qui ont des opinions différentes. Combien de fois dans un pays, c'est pas question d'idéalisme.
Plusieurs personnes se rendent compte que
c'est pas question d'idéalisme.
Mais vous n'allez pas aller dire.
Mais le projet est bien en quoi quand c'est pas publié? Comment le projet peut être bien?
Donc eux aussi ils sont remis en cause.
Comment le projet peut être bien du moment où le c'est pas publié?
C'est qui ce député?
Du moment où
justement, toute l'Assemblée adhère au projet. C'est-à-dire,
j'ai pas dit ça. J'ai dit la plupart des députés qui soutiennent la plupart. La plupart des députés qui soutiennent.
Voilà, c'est pas tout le monde.
Vous
savez bien que l'organisation de l'Assemblée, l'Assemblée est majoritaire.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, le pays traverse une double crise, une crise démocratique et une crise de représentation. Et là, on n'a jamais mis l'accent sur cette crise de représentation où les députés aujourd'hui sont porteurs des voix du pouvoir et non porteurs de voix des électeurs.
On écoute Madame
Gounebala. Qu'elle ne comprend pas comment est-ce que, lorsque l'opposition demande, d'accord, au pouvoir public une autorisation pour aller expliquer le non, on ne le leur accorde pas. Pourtant, elle était également celle-là qui disait tantôt qu'aujourd'hui, plusieurs personnes issues de la majorité battent déjà campagne sur le 8 sans connaître le document. Ils sont prêts à aller battre campagne sur le non sans aussi avoir le document. Elle se contredit une fois de plus.
Pas du tout. Soit, pas du tout.
Non, mais
du tout,
si
du
on
tout.
Vous refuse, si
du
vous,
tout,
vous venez
du
de
tout.
Le dire,
du
que,
tout,
vous,
que, tout.
L'opposition demande, que l'opposition demande l'autorisation pour aller expliquer pourquoi il faut le non. Mais ils n'ont pas le document, ils vont expliquer pourquoi. Peut-être que des gens de l'opposition demain
le non,
pourraient dire oui également.
Dites-moi.
Alors, ce
attendez.
Que vous êtes en train de dire, c'est que vous voulez demander, vous voulez discuter sur l'opportunité de la convocation
dites-moi.
Du référendum. Ceci n'est plus un débat. Au jour d'aujourd'hui, c'est déjà.
Mais pourquoi attendez. Le pouvoir manifeste et le dites-moi. Pouvoir n'accepte pas que l'opposition puisse manifester?
À quel moment vous parlez de manifestation du pouvoir
vous avez les pieds sur terre.
Dans le cadre du référendum?
Vous avez les pieds
sur
terre.
Cadre.
Ce qui se passe, dont vous êtes complètement détaché.
Les manifestations d'un parti pour soutenir un chef d'État est-il nécessairement lié à un référendum? Non.
Donc
je vois souvent la majorité au pouvoir qui viennent saluer le président, qui viennent apporter le soutien aux grandes réformes initiées par le gouvernement, mais ce n'est pas nécessairement lié au référendum.
Je vais vous dire une chose. Le problème, c'est qu'on veut les détails. C'est-à-dire qu'on sait déjà exactement ce qui va se passer. Je vous dis, c'est un dossier qui est vieux d'un an. Donc, l'opposition a eu deux lectures d'avance sur ce projet depuis. Et aujourd'hui, sans que ça soit précisé, l'opposition, c'est là où on doit nous ramener exactement. Parce que il faut anticiper, il faut avoir eu deux ou trois longueurs d'avance.
Donc vous dites que
ce
vous connaissez
qui,
déjà
ce qui
le,
va se
le,
passer,
le
ce qui se cache derrière la réécriture de cette nouvelle constitution, c'est d'abord juste pour deux dispositions fondamentales.
Très bien.
C'est juste dans un premier temps pour sauter le verrou de la limitation de mandat, pour ouvrir la porte au président de la République d'accéder à un troisième mandat qui ne sera pas réellement un troisième mandat parce que les compteurs seront remis à zéro.
Laissez-moi,
s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que là, en plus, vous
allez-y.
Me cassez mon rythme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera pas un troisième mandat parce qu'on a vu, on a toujours vu, non? Est-ce que c'est aujourd'hui la première fois d'expérimenter ce genre de choses? L'histoire, c'est-à-dire l'histoire nous rappelle, l'histoire de l'Afrique nous rappelle que c'est toujours le même schéma, c'est toujours le même mécanisme, c'est toujours la même procédure. Donc, on essaie de réviser la Constitution pour sauter le verrou du troisième mandat. Et puis,
oui.
Deuxième disposition fondamentale, de mettre cette question de double nationalité sur le carreau, de réviser ça pour écarter les candidats potentiels. C'est juste deux dispositions.
Vous voyez ouais. Que Madame Goulibana qui demandait le projet d'une constitution.
Les détails, je demandais les détails. Ça déjà on le savait. Mais c'est les détails qu'on n'a pas.
Madame, oui, excusez-moi. Elle-même, oui. Elle est en train de nous dire que ça fait déjà un an que l'opposition a la lecture hein, et on avance sur ce projet. Mais ils ont déjà.
Mais de tout ce que vous avez dit.
Il semble qu'ils aient déjà un projet.
Oui.
Et elle va plus loin elle-même en disant que la majorité veut offrir un troisième mandat au chef de l'État. Et elle continue en disant que.
Mais c'est pas la majorité. J'ai pas dit la majorité.
Bon, qu'on veut offrir. Hein, que...
Je vous ai bien dit que c'est pas tout le monde qui est unanime là-bas sur ce projet de.
Très bien.
Monsieur
Armando. Donc nous sommes en face de quelqu'un qui dit qu'il y a déjà le projet de la Constitution. Nous sommes en face de quelqu'un qui nous dit également. Que,
ça, c'est notre lecture. Oui, c'est une lecture.
Voilà.
On a tous des lectures.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Mais on a tous des
qu'est-ce
lectures.
Qu'est-ce que je veux dire de plus?
Nous, on demande les détails.
Alors, votre lecture, s'il vous plaît, vous deux.
Dites-nous que la lecture, elle est fausse. Et puis, ça va nous rassurer.
Maintenant, sur ce point, vous savez.
Si la lecture est fausse, ça nous rassure.
Sur ce point, nous débattons dans la sérénité. Mais dans les quartiers et sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas. Et face à la montée des messages de haine, les leaders religieux avertis s'inquiètent de l'avenir de ce pays encore en proie à l'insécurité. Je vous invite à écouter le cardinal Dieudonné Zapalainga, chef de l'église catholique en République centrafricaine, qui appelle les autorités à privilégier le bien-être de la population face à cette situation.
Cette convocation a été faite par le président de la République. Et moi, je voulais simplement rappeler trois moments dans ce pays. En 2013, nous avons connu ce que j'appelle le chaos. Et moi, je ne veux plus qu'on puisse arriver là. Ça, c'est du 1. De 2, moi, je suis autorité morale. Je cherche à donner derrière moi des gens. Et ces gens-là, ils sont différents. Et ces différences-là, nous cherchons. à les faire conjuguer en richesse pour le bien de la nation. Bouganda nous a tracé la voie. Tu as les 5 verbes. On doit mener vers le développement, vers le bonheur, vers la réussite. Et si on n'a pas pris ce chemin, on doit se poser des questions. Moi, quand je vais dans l'intérieur de ce pays, je vois les routes. Voilà les grands défis pour ce pays. L'université en a une. Voilà un grand défi. Je vois beaucoup de défis. Et ça qui doit nous drainer. Et je dis non à la violence, non pour hypothéquer l'avenir de nos enfants. Il faut, à un moment donné, arriver à sacrifier ses intérêts personnels pour le bien communautaire. Et quel est le bien communautaire? Définissons ce que le bien communautaire. Soyons, comme on dit parfois chez certains, quand la nation est menacée, tous on doit aller dans une direction. Défendons la nation. Et pour moi, chers compatriotes centrafricains, que le démon de la haine ne nous emporte pas. Le troisième élément, c'est le forum de Bangui. Le forum de Bangui a été un moment unique. Parce que les gens sont venus de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ils ont vidé leur sac. Ils ont émis des propositions. Ils ont aussi dit aux uns aux autres, plus jamais ça, nous voulons construire une nouvelle République centrafricaine. Un des fruits de ce forum, cette constitution qui a été rédigée. Il y a les possibilités de changer cette constitution. Pour pouvoir changer, il fallait le Sénat exécutif et législatif. Quand on nous a posé la question, en tant qu'évêque, père spirituel de ce pays, nous avons dit, il manque un élément. Nous avons dit, non, il ne faudrait pas aller dans cette direction. Mais si le politique aujourd'hui, comme vous venez de le dire, a pris cette option, moi je reste centrafricain, je reste chrétien, je reste démocrate. Nous devons, autour de la parole, engager le dialogue, sincère et franc, que le démon de la haine ne nous emporte pas.
Voilà, c'était le cardinal Dieudonné Zapalainga sur Radio Ndeke Lukia. Monsieur Ndiapou, la position de l'Église catholique est claire. Il faut donc privilégier l'intérêt national. Autrement dit, les politiques doivent se référer à ce que prescrit la loi. Vous avez écouté, monsieur, qui a expliqué, j'allais dire, la pensée de la population, parce que le cardinal est toujours avec la population à l'intérieur du pays, les routes, l'école et bien d'autres. C'est ça qui intéresse la population.
Tout à fait. Il a clairement affirmé, l'archevêque, que les autorités doivent respecter la loi. Et qu'est-ce que dit notre loi fondamentale en son article 26 ? Que cette souveraineté nationale appartient au peuple, soit qu'il exerce par la voie de ses intermédiaires ou alors par voie de référendum. C'est dire que, en convoquant le référendum, les autorités politiques, les plus hautes autorités politiques, respectent effectivement cette nation, respectent ce peuple-là.
Vous l'avez suivi, mais le cardinal a dit il faut, selon eux, selon ce qu'ils savent, et selon la loi, il faut que le Sénat soit mis en place avant de convoquer ce référendum.
Le cardinal est une...
Il parle de trois piliers.
Le cardinal est une autorité, il a d'abord dit au début, une autorité morale, une autorité religieuse. Hein. Ce n'est pas une autorité juridique. Au jour d'aujourd'hui, l'autorité juridique en la matière est la Cour constitutionnelle et elle a donné son feu vert pour que ce référendum soit convoqué. Et le cardinal lui-même qui disait qu'il faut respecter la loi, mais la loi relative aux fixant les procédures référendaires en son article 2 permet à ce que ce référendum-là soit concrètement fait. Mais j'aimerais aussi soulever un aspect important parce que le cardinal a appelé l'ensemble des acteurs parce qu'il ne faut pas juste prendre ce qui nous intéresse. Il a bel et bien dit que face à cette recrudescence, l'esprit de haine, etc., il appelle toutes les parties à se mettre ensemble, à discuter, à dialoguer, à trouver des voies de sortie. Et c'est tout à fait normal. C'est dire que lorsque nous sommes dans une société et que nous sommes opposés sur une question, et il revient à ce que nous essayons, et puis nous discutons.
Oui, il parle de dialogue, mais aujourd'hui, est-ce que, avec tout ce que nous écoutons, des appels par-ci, par-là, contre ou pour, est-ce qu'on peut, aujourd'hui convoquer un dialogue politique inclusif avant d'aller à ce référendum? Parce que quand vous avez bien paraphrasé le cardinal.
Alors, mais là, il s'agit totalement de la volonté du chef de l'État. S'il estime que cela est nécessaire, il le fera. Mais pourquoi convoquer une opposition alors que nous pouvons convoquer un peuple? Alors, le peuple pourra lui-même.
Mais vous le savez, derrière l'opposition, il y a le peuple. Et derrière le pouvoir, il y a le peuple.
Alors, quand c'est comme ça, justement, la démocratie
on
nous appelle. La démocratie, alors, nous appelle.
Tout le monde pour dialoguer. On parle du dialogue, on ne parle pas de la consultation.
Mais dialoguer, on dialogue lorsqu'il y a un problème. Précis.
Non, il n'y a pas de problème pour l'instant.
Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème?
Ah
non.
Bon,
il y a tout simplement une question qui est soumise à l'attention du peuple, qui peut aisément choisir de s'y conforter ou alors de ne pas s'y conforter. Il n'y a pas un problème. L'opposition veut faire de cela un problème et il n'y a aucun problème.
Selon vous ?
Pas selon moi. Selon la loi, déjà, il n'y a aucun problème. Selon la loi, il n'y a déjà aucun problème. Alors, à base de quoi l'opposition peut se permettre aujourd'hui de vouloir absolument... En fait, c'est l'opposition qui veut faire de cela un problème. Hein, lorsque vous voyez aujourd'hui de plus en plus le discours de l'opposition rejoint le discours des groupes armés, rebelles, hein, nous nous retrouvons avec, avec le
Et c'est ça le problème,
le BRDC.
Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème.
Non mais justement, mais le problème ça veut dire que le problème vient d'un groupuscule d'individus.
Mais il faut dialoguer, c'est ce que le
capital a mentionné,
il faut que les gens se parlent entre eux.
Au jour d'aujourd'hui, souhaitent la guerre. Je ne pense pas que les Centrafricains, surtout ceux qui ont vécu la dernière crise de 2013-2014, souhaitent voir la guerre. Alors quand des leaders de l'opposition politique se permettent d'appeler à la guerre, appeler à des moyens de violence pour renverser un chef d'État démocratiquement élu, c'est là où il faut vraiment se poser les questions. Autant on peut accepter une opposition hein, qui reste dans le cadre des lois, qui mène un combat démocratique et qui le perd, mais dans la légalité... Mais qu'il y a un groupuscule d'individus qui veulent réclamer une portion du peuple centrafricain et qui aujourd'hui appellent à ce que tout le monde puisse aller s'entretuer. Mais c'est gravissime, monsieur Armando.
La parole anticipe souvent aussi l'acte. Hein, et pour les leaders religieux, ces messages de haine constituent un danger latent pour l'avenir de ce pays. Madame Constance Gounebana, quels sont donc vos commentaires ?
Merci Armando. Je voudrais d'abord revenir sur deux petites questions tout à l'heure qui étaient soulevées par mon co-débatteur. Pour lesquels j'avais pas apporté de réponse concernant la mise à la retraite de Madame Darlan. Que c'était normal que Madame Darlan aille à la retraite parce que le moment était venu. Mais si on doit faire les statistiques aujourd'hui, repartir dans le fichier de la fonction publique aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas retrouver des retraités qui sont en fonction? C'est une question que je me pose et une question que je vous pose à vous et une question que je pose à l'endroit du peuple centrafricain. Parce que là, on nous dit oui parce que c'est un processus global de la fonction publique. Mais il y a des gens qui ont l'âge de la retraite, qui sont aujourd'hui encore en poste.
Je peux répondre à la question.
Toutes les personnes qui sont hors statut.
Ah.
Toutes les personnes qui sont hors statut, mais qui sont en fonction. Ça veut dire quoi ?
Ce que j'aime avec Madame Gounebana, c'est que quand elle pose une question, elle donne une réponse.
Oui, mais pourquoi vous ne lui avez pas donné le statut de hors statut ? Pourquoi vous ne lui avez pas attribué ça ?
Ah,
mais oui.
Vous voyez maintenant.
Mais oui, mais justement.
Bon, madame, on gagne du débat. Temps, on n'est pas sur ce point.
Mais ça dit, c'est lui qui veut polémiquer sur des petites choses, machin, tout ça.
Reprenez,
non, c'est le débat.
Reprenez,
c'est le
débat.
Oui, c'est le débat.
Reprenez et on y va.
Voilà, c'est le débat. Donc, ça, c'était de 1. Pourquoi l'opposition n'a pas fait de recours ? Mais parce que l'opposition ne fait plus confiance. Ni à l'ANE, ni à la Cour constitutionnelle, c'est clair. C'est clair comme l'eau de roche. Quand il y a plus de confiance, quand il y a plus de crédibilité, quand une institution a perdu toute sa crédibilité, on peut plus, on ne reconnaît plus cette institution, on ne peut plus faire recours.
C'est tout simplement ça.
Hein, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai été aux élections. Vous n'avez pas été aux élections. Moi, j'ai été sur le terrain. Moi, j'ai vécu des choses. C'est-à-dire que entre des gens qui pratiquent, qui vivent les choses dans leur chair, dans leurs os, c'est différent que des gens qui restent juste dans leur bureau, qui restent juste dans la paperasse et qui font juste des beaux discours.
Le temps nous fait défaut. Revenez sur
l'extrait de
ce que vous avez écouté du cardinal.
L'extrait du cardinal, je pense que le moment aujourd'hui est venu pour que les confessions religieuses prennent leurs responsabilités. Toutes leurs responsabilités dans ce pays-là, parce que c'est un pays qui appartient à nous tous. Il n'y a pas de demi-centrafricain, il n'y a pas de super-centrafricain, il n'y a pas de super-compatriotes. Je pense aujourd'hui, on est tous, peut-être, je dirais pas on est tous, on a une catégorie de personnes qui manquent d'humilité, qui est dans l'arrogance, pas dans l'humilité du tout, parce que quand on est dans l'humilité et quand on a à cœur d'améliorer les conditions de vie de son peuple, on a aussi à cœur de rassembler le peuple. Aujourd'hui, la population est divisée. Le pays n'a jamais été aussi divisé. Les Centrafricains, de toute l'histoire de Centrafrique depuis les indépendances, les Centrafricains n'ont jamais été aussi divisés. Aujourd'hui, tous les sujets sont des sujets de division. Aujourd'hui, quel est l'intérêt du pouvoir d'opposer le peuple contre le peuple ? Il n'y a aucun intérêt. Mais pourquoi donc? C'est de la responsabilité du gouvernement de prendre cette question en main et d'essayer de réfléchir, de voir comment on peut unir le peuple. Quand vous parlez de ce peuple, voilà, le peuple nous a sollicité, machin, c'est un peuple qui est tout simplement instrumentalisé, tout ça, tout le monde le sait. Mais le vrai peuple, la vraie population, il y a aujourd'hui une rupture de confiance entre le peuple et le pouvoir. Donc aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment réconcilier les Centrafricains entre eux-mêmes. Ça, c'est de la responsabilité, pas de l'opposition, mais c'est de la responsabilité du pouvoir, parce que c'est un problème qui est grave, qui est gravissime. On a vécu les événements de 2013 parce que ça a failli tourner à une guerre intercommunautaire, mais aujourd'hui, on a les germes. Hein, on a les germes de ce qui pourrait arriver demain. Mais qu'est-ce qu'on attend? Moi, c'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse, parce que le climat aujourd'hui est tellement anxiogène et chrysogène que les gens ont peur et les gens craignent une nouvelle crise. Mais c'est de la responsabilité du gouvernement de créer cette désescalade.
Monsieur
et de
Ndiapo,
voir comment...
Vous reprenez la parole pour gagner du temps sur le
alors,
cours. Vous avez 3 minutes
aussi. Je résumerai en quelques mots ce que madame vient de dire sur le discours du cardinal comme étant celui-ci. Il faut que l'Église prennent ses responsabilités. Je pense que madame l'a dit. Toutes les confessions doivent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'impliquer, et elles doivent même s'impliquer dans les débats sociaux. L'Église, j'aimerais bien également entendre le cardinal condamner la CPC qui tue des Centrafricains.
Il l'a fait. Hein.
Oui, encore, bien sûr, mais c'est une manière de dire toutes les confessions religieuses. J'aimerais bien également l'entendre également. Condamner M. Nguindé qui appelle à la violence, condamner les leaders de l'opposition démocratique qui appellent à la violence, à la guerre, ce qu'il a longtemps combattu en tant qu'homme de paix, homme de Dieu. Je pense qu'il doit s'opposer à toutes ces manœuvres-là qui tendent à diviser encore plus, à détruire encore plus. C'est aussi en cela qu'on attend à ce que le cardinal puisse être beaucoup plus présent. Alors, je pense tout simplement que...
Eh bien, l'opposition... Aussi. Il y a le médiateur qui doit jouer son rôle.
Bien sûr, je ne fais que de vous paraphraser. Vous avez appelé...
Je complète.
Alors, je tiens également vraiment à dire qu'il faut que le BRDC arrête de penser qu'il représente l'ensemble du peuple centrafricain. Ou alors une partie. Moi, je dirais, OK, une partie, mais une partie, je dirais même, non négligeable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de gens au sein de notre communauté nationale qui se sont manifestés positivement face aux appels du chef de l'État, on peut le voir, ils sont en nombre assez constant. Et d'ailleurs, le seul moyen, si elle me répond par la négative, je dirais, alors nous attendrons le référendum pour voir effectivement qui de ce peuple-là que tout le monde se réclame, c'est-à-dire le BRDC, l'opposition se réclame du peuple. Ils disent que la majorité du peuple n'a pas la voix, la majorité du peuple ne se prononce pas, etc. Mais quoi de mieux que de solliciter ce peuple-là?
Le BRDC dit clairement
ils n'ont qu'à battre campagne avec ce peuple dont ils se réclament être le représentant, être les porteurs de la voix qui n'est la voix de son voix. Mais ils n'ont qu'à aller battre campagne et aller défendre leur position. Et maintenant, nous verrons si ce peuple-là les suivra et les écoutera. Alors pourquoi il fuit le référendum? Pourquoi il fuit d'aller vers ce peuple-là pour pouvoir également se prononcer? De mieux que le peuple dont tout le monde se réclame pour pouvoir décider?
Je vous réponds. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'étais candidate aux élections législatives. C'est tellement simple quand on n'a jamais participé aux élections. C'est tellement simple de tenir le discours que vous êtes en train de tenir. Moi, j'ai été aux élections et moi, ce que j'ai vu sur le terrain, moi, j'ai dit si les conditions restent les mêmes, moi, j'irai pas aux élections. Parce que on va pas aux élections à l'aveugle. Les élections, ça coûte cher, c'est de l'argent. C'est même pas que on va pas bien battre campagne machin. C'est pas ça. Tu peux beau faire une belle campagne comment, mais au finish, il y a tellement de choses que vous voyez sur le terrain qui font que les élections ne sont pas crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la crédibilité même du processus, parce que ce processus-là devait être consensuel. Donc, c'est de la crédibilité des institutions.
Aujourd'hui, au cadre de la concertation,
c'est de la crédibilité.
De l'opposition
c'est de la crédibilité des institutions. Donc, ne demandez pas, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, ne demandez pas aux gens d'aller aux élections pour le plaisir d'aller aux élections, alors qu'on sait que pour les élections couplées de 2015, 2016 et pour les deuxièmes élections couplées de 2020-2021, c'était entaché tellement d'irrégularités et qu'il y a eu des contentieux électoraux qui n'ont jamais été vidés et qu'on demande à chaque fois d'aller aux nouvelles. C'est son rôle, ça a toujours été son rôle.
Alors donc vous êtes plus.
Ça a toujours été son rôle, c'est son rôle. Vous voulez que.
Supérieur à celle-là.
C'est même pas ça.
Vous avez plus d'informations que tous les acteurs engagés dans les processus électoraux.
C'est même pas question de supériorité de quoi que ce soit. Oui. Du moment où de l'argent a été engagé, on ne va pas refaire une élection qui a coûté 31 milliards ou 40 milliards, juste parce qu'il y a eu des irrégularités. Donc, on est obligé de valider, parce que ça coûte cher, des élections. Donc, c'est tout simplement qu'il faut aller au fond des choses. Aujourd'hui, vous êtes dans une position confortable. Ce que vous défendez, je vous comprends. Vous jouez votre rôle, mais ne demandez pas.
Vous jouez également votre rôle.
Oui, je joue mon rôle, mais on n'est pas dans une situation confortable.
C'est parce que c'est vous qui le voulez.
Financièrement parlant, on n'est pas dans une situation confortable. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, l'argent que j'ai dépensé personnellement pour les élections législatives, si c'est pour me prendre pour un toutou...
J'imagine que vous avez raté les élections. Parce que
c'est pas que j'ai raté, sinon je serai à l'Assemblée, sinon j'aurai ici.
Je comprends. Je comprends. En général,
j'ai raté dans les urnes, ça n'a rien à voir.
Qui se plaigne du processus
ça n'a rien à voir. C'est pour ça que vous êtes autiste. Parce que quand il y a des réalités que nous, on vous fait remonter pour améliorer le système, vous êtes toujours sur vos grands chevaux pour montrer que vous connaissez tout. Oui. Vous n'avez pas à apprendre. Vous n'avez rien à apprendre de nous autres. Mmh. Et que, bon, mais c'est tout. C'est pour ça que ça marche pas.
2020, c'est pour ça que ça marche pas. Qui ont mal été organisés et ont permis l'élection de votre président à l'Assemblée, monsieur Anicet Georges Deleguélé, était très mal faite.
Je ne parle pas de ça. Je vous dis.
Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de crédibilité.
Je vous dis.
2020-2021 qui ont pourtant
élu
monsieur Deleguélé.
Je vous dis.
Votre président de parti.
Je vous dis.
Oui, allez-y.
Je vous parle des élections législatives. Lui-même, il parlera de son expérience à lui.
Mais il a été élu.
Il a été élu.
Voilà.
Mais moi, je vous parle de mon expérience à moi. Et
d'accord.
C'est pas parce que j'ai échoué.
Ah, mais.
C'est pas parce que c'est. Oui, mais ben, oui, j'ai échoué, mais ça, qu'est-ce que ça a enlevé à ma personnalité?
Merci beaucoup.
Ça n'a rien enlevé à ma personnalité. Mais justement, nous, il n'y a pas d'aigreur. Je suis sans haine. Je suis sans haine. Regardez-moi comment je suis. J'ai jamais eu la haine dans ma vie. Mais c'est des informations qu'on remonte à votre niveau pour améliorer un système. Et comme à chaque fois, vous bottez toutes les informations en touche, c'est dommage.
Vous faisons des remarques aussi pour
c'est
vous
dommage.
Aider aussi à contribuer.
Vous êtes tellement autosuffisant, vous n'avez pas besoin de nous,
Madame
de nos remarques.
Madame Nathalie Constance Kounebana,
je
vous en prie, c'est la fin de cette émission politique consacrée à la montée des messages de haine relatifs à la convocation du référendum constitutionnel du 30 juillet prochain ici à Bangui et dans tout le pays cette année bien sûr. Vous pouvez suivre ou poursuivre bien sûr le débat chez vous à la maison. Hein. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci aussi à tous nos auditeurs et auditrices d'être de notre bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Un gros clin d'œil au fauve hein, de Bazoubangui du football. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.